l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, la dernière fois, je suis rentré dans l'analyse concrète et active de la notion de vertu. En parlant non plus de la vertu comme principe, écoute en profondeur de la divine perfection afin de la laisser grandir à l'intérieur de nous et tout inspirer pour tout habiter. Mais de la vertu comme action, de rentrer dans les choses et la matérialité parce qu'elle est vertu. Et c'est ce qui fait le sens si noble de la notion de vertu. Parce qu'elle est perfection, on pourrait croire qu'elle est à l'opposé de la matérialité. La matérialité étant synonyme d'imperfection. Alors que la perfection est synonyme d'idéal. Pendant longtemps, la culture, ou une partie de la culture, a méprisé la matérialité en plaçant l'idéalité au-dessus de la matérialité. Tout est bouleversé par le Christ lorsque celui-ci s'incarne et montre que la transcendance et l'incarnation sont la même chose. Souvent, on se trompe à propos de la transcendance, à propos de l'incarnation. On a tendance à appeler transcendance ce qui va au-delà. On a tendance à entendre par incarnation le fait d'avoir un corps. La transcendance ne consiste pas à aller au-delà. Et l'incarnation ne consiste pas à avoir un corps. La transcendance signifie le fait d'aller au-delà, au sens d'aller de l'avant, d'aller plus loin. On va plus loin quand on dépasse les oppositions. On va au-delà quand on va au-delà d'une opposition. On va au-delà quand on va au-delà de l'opposition idéale matière. Pour dire quoi ? Que la matière a quelque chose d'idéal et que c'est dans la matière que se trouve l'idéal. Et l'incarnation, elle aussi, va au-delà quand il est dit que s'incarner, ce n'est pas avoir un corps, mais c'est avoir un corps qui signifie quelque chose, un corps qui porte une idée, un corps qui incarne quelque chose. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la matérialité ? L'expérience de la matérialité, c'est ce qui se passe, non pas quand il y a matière, mais quand il y a matière qui incarne quelque chose de transcendant qui va au-delà. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la matérialité ? C'est ce qui se passe quand, de l'intime même du monde, de l'intime même de la réalité, monte quelque chose de divin. On pense que le divin, c'est quelque chose qui est au-dessus, qui est ailleurs. Mais le divin n'est pas quelque chose qui est au-dessus et qui est ailleurs. Le divin, il est ici, il est présent. Et il n'y a pas plus transcendant que le fait d'être présent. L'extraordinaire nouvelle du christianisme, qu'on appelle la bonne nouvelle et l'évangile, quelle est-elle? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans l'évangile, mais il y en a une tout à fait extraordinaire qui consiste à dire « Dieu n'est pas là-bas, Dieu est ici ». André Comte-Sponville, que j'apprécie beaucoup pour ses hautes qualités intellectuelles, d'excellent philosophe, disait un jour « Notre Père qui est aux cieux ». Vous voyez, c'est le signe que Dieu est là-bas et pas ici. Or, la réalité se trouve ici. André Comte-Sponville a raison. La réalité se trouve ici et là-bas. La réalité ne se trouve pas dans une évasion. Mais là où, en mon sens, il fait une erreur, c'est de ne pas apercevoir que ici, c'est exactement ce que dit le Christ quand il parle de Dieu. Dieu n'est pas au-delà, Dieu est ici. Et pourquoi Dieu est-il ici? Parce qu'il n'y a pas plus transcendant que la matérialité quand elle est bien comprise. Quand la matérialité n'est pas comprise, on est ou panthéiste ou athée. C'est-à-dire, on dit que la matérialité ne signifie rien parce que la matière n'est que matière, ou alors on confond Dieu et la matérialité. La signification du Christ, ce n'est pas de dire que Dieu est la matérialité, mais que la matérialité, bien comprise, est quelque chose qui exprime la réalité divine. C'est-à-dire que la matérialité est une icône, elle n'est pas Dieu, elle est une icône de Dieu. Et qu'est-ce que veut dire qu'elle est une icône de Dieu? Elle veut dire que quand on l'analyse en profondeur, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de divin qui s'exprime à travers la matérialité. Et qu'est-ce qui s'exprime de divin? Eh bien, c'est la matérialité elle-même. C'est le fait même qu'elle existe. C'est-à-dire que la matérialité est porteuse du mystère même de la création par le fait qu'elle existe en tant que matérialité. Et là, nous trouvons une merveilleuse liberté qui est donnée par Dieu au cosmos et qui va permettre de comprendre ce que veut dire avoir le sens du cosmos. Avoir le sens du cosmos, c'est avoir le sens de la présence divine parmi la réalité et non pas de la confusion entre Dieu, la réalité et la matérialité. C'est apercevoir que tout est un langage divin pour qui sait lire. Le poète sait lire la réalité et voir en elle un langage divin. Et par là même, nous comprenons cette parole des anciens qui disait que la nature est la parure des dieux. La nature est un cosmos. La nature exprime quelque chose de divin. Et l'homme est citoyen du monde, citoyen du cosmos, dans la mesure où il est capable de voir dans la réalité, partout, la manifestation de Dieu, qui fait que il y a du sens à parler du cosmopolitisme, mais pas au sens où nous l'entendons. Être cosmopolite, pour nous, c'est pouvoir vivre dans un monde sans frontières humaines, sans frontières terrestres. Être cosmopolite, au sens profond, veut dire voir le monde sans des frontières, qui fait que Dieu n'existe pas et qui n'est pas présent parmi nous. D'où une vertu ici qui consiste à se dire fils et fille du cosmos, comme le dit Gaston Bachelard. Il y a des moments où dans l'expérience poétique, le poète se sent fils ou fille du cosmos. C'était Nana Peradze et son chœur d'harmonie géorgienne pour un hymne à la Mère de Dieu. Chers amis, pour la deuxième fois, j'ai la joie de recevoir Sandrine Canéry qui, la dernière fois, nous a parlé de sa découverte du judaïsme et qui, aujourd'hui, va approfondir la relation qu'il peut y avoir entre l'orthodoxie et le judaïsme, parce que ce n'est pas évident. Mais grâce à vous, chère Sandrine, ça va peut-être le devenir. L'orthodoxie, puisque vous, vous connaissez bien le judaïsme, vous découvrez l'orthodoxie comment? Et puis, qu'est-ce que c'est pour vous, si vous deviez définir ce que c'est?
Alors, puisque je parlais de ce petit monastère la dernière fois, eh bien, il se trouve que la fondatrice, c'est en Orient qu'elle a découvert le lien, quand elle est partie en Orient, à Jérusalem, qu'elle a découvert le lien entre judaïsme et christianisme d'Orient, on peut dire, ou christianisme orthodoxe, bon, peu importe. Et elle est revenue en disant, mais il faut faire des liens, parce que c'est impossible, quoi. C'est tellement, on est sur la même terre, on a les mêmes sources. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ce petit monastère, en plus, comme elles ont construit un office liturgique très particulier qui mélange donc ces prières juives et les l'hymnographie des pères de l'Église, c'est mélangé, et qu'en plus elles ajoutent des lectures bibliques géniales. Franchement, elles ont tout un lectionnaire d'une richesse mais immense. Du coup, moi j'ai baigné là-dedans jusqu'au jour où je me suis dit, bon, maintenant il faut que j'aille voir de plus près comment fonctionne l'esprit orthodoxe, l'esprit de l'Église orthodoxe, et comment ça s'articule. Et pour aller voir de plus près, bien, il a fallu que je plonge de manière vraiment radicale dans le monde orthodoxe. C'est-à-dire.
Mais vous étiez déjà orthodoxe.
J'étais orthodoxe.
Vous êtes. D'où vient votre lien à l'orthodoxie, votre famille?
Ça vient de là, en fait. Il vient de là. Non, c'est pas ma famille.
Vous êtes convertie?
Oui. Moi, je suis d'une famille pas croyante. Enfin, d'accord. Pas franchement croyante. J'ai jamais vu.
À quel âge vous comptez
partir? 21 ans.
Et donc, vous avez découvert par vous-même l'orthodoxie.
Voilà, je découvre l'orthodoxie et je.
Comment?
Par le biais de ce petit monastère.
Ah,
et puis je me.
Et pourtant catholique.
Et pourtant catholique, voilà, mais très orientale.
D'accord.
Et surtout, à chaque fois que j'allais ailleurs chez les catholiques, j'étais pas chez moi. Je me sentais pas chez moi. Et donc j'allais chez les orthodoxes.
D'accord.
C'est naturel, quoi. Voilà. Et jusqu'au moment où on fait le pas, quoi. Parce qu'on peut pas aller chez les orthodoxes tout le temps en restant catholique. Donc je fais le pas. Bon, ça c'est pas un problème, à la limite. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que je suis allée chez les orthodoxes, j'ai senti effectivement exactement ce que vous avez dit, c'est qu'on a une dichotomie. C'est-à-dire, l'orthodoxie, elle se passe tout à fait de ses racines et de judaïsme et l'hébreu, on connaît à peine. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Moi, j'ai appris dans un petit monastère que c'était ensemble, et j'arrive dans une orthodoxie, alors, de tradition byzantine, parce que, bien évidemment, je serais allée chez les Georgiens, chez les Maronites, chez les Syriens, chez les Coptes. Évidemment, là, les racines, elles sont encore... Ou chez les Éthiopiens, elles sont énormes. Chez les Éthiopiens, c'est énorme, les racines. Bon. Je serais allée là, bon, mais je parle ni Georgien, ni Copte, ni Gaze, enfin bon. Donc, je suis allée, moi, là où je connaissais en France des lieux orthodoxes. Bon. Et donc, dans cette tradition byzantine très classique, très marquée, aucun lien. Et puis, quand j'ai commencé à parler de ça, c'est pas qu'on m'a pris pour une extraterrestre, mais enfin presque, quoi. Vraiment, je voyais bien que je n'étais pas entendue.
Voire même, pour certains, vous frôlez l'hérésie.
Absolument, absolument. Et donc, il a fallu que je me calme. Je me suis dit, si je suis vue comme ça, il va falloir que j'aille à dose archi-homéopathique. Voilà. Et donc, j'y suis allée petit à petit, pendant quand même 25 ans. Hein. Bon, quand même, il faut être patient, quoi. Et j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne. Mais alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut vraiment plonger dans la tradition byzantine pour elle-même. Parce que cette tradition byzantine, elle a une cohérence. Et une cohérence géniale. Elle est géniale, cette tradition byzantine, parce qu'elle repose sur les pères grecs, plus particulièrement, et même ne serait-ce que tout le calendrier liturgique, toutes les 12 grandes fêtes, enfin, il y a un génie de l'organisation et de l'Église et de la liturgie et du calendrier, enfin, il y a un génie.
Quoi. Et de toute la vie spirituelle.
Et de toute la vie spirituelle, bien évidemment, voilà.
Ouais.
Donc ce génie, il a fallu que j'y plonge, mais pour lui-même, c'est-à-dire sans chercher à tout de suite à faire des rapports avec un tel. Et donc j'ai plongé pour lui-même pendant 10 ans, quoi, voilà. Pour intégrer, en ayant les offices tous les matins, tous les soirs, pour intégrer complètement. Voilà. Puis une fois que c'était intégré, eh bien, j'ai commencé à regarder, à faire les liens. Est-ce que je peux retrouver ?
Donc, vous partez du judaïsme, vous allez dans l'orthodoxie et vous revenez après vers le judaïsme pour mieux comprendre le lien orthodoxie-judaïsme.
Absolument. Et je garde des liens avec ce petit monastère que j'aime beaucoup jusqu'aujourd'hui. Je veux dire, on s'entend, on se parle, on partage beaucoup. Enfin, c'est vraiment extrêmement précieux. Parce que là, je sens qu'il y a une racine. En plus, quelque chose que je n'ai pas dit dans ce petit monastère, c'est qu'il y a tout cet aspect des pères du désert. Mmh. Et ces pères du désert, pour moi, ça me parle beaucoup parce qu'ils sont totalement de l'Église indivise, mais ils sont quand même totalement orientaux dans le sens, il suffit d'aller chez les Coptes et dans les Wadi Natroun pour se rendre compte que les pères du désert, ça existe encore, quoi, quelque part. Et donc je fais ça. Et puis, il se trouve que je reprends des études universitaires. Et je suis conduite par je ne sais quel... Enfin, je ne veux pas dire hasard, parce que c'est le seul mot qui existe pour dire que Dieu se cache. Hein. C'est le mot quand Dieu se cache, on l'appelle hasard, mais enfin, on sait bien que ce n'est pas le hasard. Je tombe...
Surtout si c'est un hasard.
Surtout si c'est un hasard.
C'est le paradoxe.
Et je tombe sur une personne qui était vice-doyenne à l'époque de l'institut dans lequel j'ai travaillé. Et on commence à discuter, et je vois qu'elle est passionnée de judaïsme. Je me dis, waouh, alors qu'une chrétienne. Je dis, waouh, ça c'est incroyable. Et parfaitement parfaitement grec, parfaitement hébreu, enfin quelqu'un qui connaît les langues. Bon. Et je me dis, c'est bon, quoi, j'ai trouvé quelqu'un avec qui travailler. Et donc je commence le master. Et quand je commence le master, je me dis, je vais faire des liens. Je vais faire des liens. Je me dis, qu'est-ce que dit la tradition orthodoxe des pères grecs sur tel passage biblique? Et qu'est-ce que dit la tradition des rabbins? Et est-ce qu'on peut le mettre ensemble? Et donc, j'ai passé un an à étudier. D'ailleurs, ça a terminé dans un bouquin au CERF. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, ils n'ont plus qu'à trouver le bouquin, même si certains disent qu'il est plus ou moins épuisé.
Donc, un livre que vous avez écrit,
voilà,
qui s'appelle alors
qui est le fruit du master. Hein,
et il s'appelle
qui s'appelle Rencontre de Rebecca au puits, voilà, au CERF, d'accord. 2014. Voilà. Donc, ça fait 10 ans. Et donc, je produis. On travaille beaucoup parce qu'il faut chercher les sources d'un côté. On travaille sur deux traditions, donc c'est énorme. Je dis, on travaille, c'est bon. Mais je sentais qu'il y avait vraiment des liens à faire. Donc, je travaille beaucoup surtout pour les sources, mais dès que j'ai les sources devant moi, pouf, c'est comme un puzzle. Clac, 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 ça se met ensemble. Et puis, ça sort tout seul. Et la dernière partie de mon livre, mais c'est sorti, mais ça jaillit du cœur, quoi. Et puis, je rends ce bouquin. Et puis, je rends le master, j'ai une très bonne note, tout va bien. Bon. Et puis, surtout, le jury me dit, maintenant, il faut faire un doctorat. Vous n'allez pas vous arrêter là, vous sortez un truc que personne n'a jamais fait, quoi. Hein. Alors que le master, normalement, on n'est pas obligé de faire du nouveau. Hein. Et maintenant, là, vous allez continuer. Là, on ne peut pas s'arrêter là, bon. Mais je fais ça. Bon, après, il se trouve que c'est... En plus, il me dit dans le doctorat, dans le master, là, le jury m'a dit, vous devez publier, parce que c'est vraiment très important. Bon, alors, c'est ce qui s'est fait tout seul aussi, encore une fois. Et puis, je reste tranquille, hein, parce que je me dis, c'est bon. Et je retourne dans ce petit monastère où je vais toujours, de temps en temps, et je vais à un office, et je comprends tout. Et je me dis, en fait, mon travail de recherche pour mettre ensemble, c'est exactement le produit de ce qui se vit dans ce monastère sur le plan liturgique, sur la pensée. Et c'est sorti de moi.
Donc
parce
ça y est,
voilà,
l'unité est faite.
L'unité était faite. Voilà, l'unité entre ces deux traditions était faite.
Voilà. Merci, chère Sandrine. Et nous avons hâte d'écouter la suite. Et pour terminer, Nana Piradze et son chœur d'harmonie géorgienne pour... un hymne à la Mère de Dieu, aux Vierges très pures.
Oh, Vierge, Mère, maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. J'ai lu.